tripagem. Les pages saison 3, épisode 21, je continue à arpenter l'Anjou. Bon d'accord, sur un versant unique seulement, le monde des livres, avec une préoccupation, chercher à faire entendre des voix et une envie, faire découvrir. Pas d'hiérarchie des valeurs dans cette émission, juste essayer de mettre la sincérité de la parole des invités en avant. Et pas obligatoirement de course à l'actualité, cette urgence artificielle à laquelle on nous a accoutumés, cet événement encore plus extraordinaire que celui d'il y a à peine 3 minutes qu'il faudrait mettre en avant, n'a pas trop sa place ici. Il faut toujours se rappeler que les bibliothèques sont remplies de livres dont une grande partie n'a pas de date de péremption. Pour cette conversation, je suis allé rendre visite à un homme aux activités multiples. En ce moment, pas d'actualité pour lui, pourtant, pour ce qui le concerne, près de 30 ans de travail dans le monde de la bande dessinée. Et comme on dit dans les sports collectifs, lui, il est capable de jouer à plusieurs postes. Place aujourd'hui à Gwen de Bonneval. Bonjour Gwen de Bonneval.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté cette interview. Vous occupez une place un peu à part dans le monde des livres en Anjou. Vous êtes un artiste que l'on pourrait qualifier, alors moi j'ai mis le terme multicarte, vous dessinez sur des scénarios qu'on vous propose, vous écrivez des scénarios pour d'autres, vous écrivez des scénarios avec d'autres, et j'ai peut-être oublié d'ailleurs des choses. Laquelle de ces activités a plutôt votre préférence ?
Je pense que j'ai commencé par le dessin, mais comme tous les enfants, hein, et quand on dessine quand on est enfant, c'est également narratif. C'est d'ailleurs la difficulté qu'ont les enfants, c'est de quand ils font un dessin et qu'ils commencent à parler de leur dessin, on voit qu'il y a plusieurs temps. Dans un seul temps, il y a un dessin et il se passe plein de choses et c'est dans leur tête. Et la bande dessinée, eh ben, il faut réussir à dissocier tout ce qu'il y a en concentré, en séquence narrative. Je pense que c'est d'abord le dessin, mais évidemment, il y avait du récit derrière qui me passionnait. Oui.
Ça a été quoi le premier vrai travail de bande dessinée ou que vous pouvez revendiquer comme travail de bande dessinée? Ça a été quoi? Ça portait quel titre? Parce que souvent, quand on est gamin, on commence à mettre un titre.
Alors c'est difficile parce que ouais. Je pense que j'ai dû faire de la bande dessinée comme un peu tous les enfants, à essayer de faire des planches de bande dessinée sans savoir que ça s'appelait des planches d'ailleurs. Et je me souviens d'un ami qui revenait d'un stage de bande dessinée. Et il m'avait montré des planches qu'il avait faites en couleur directe, aux encres, et ça m'avait fasciné. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, on faisait pas comme dans des livres imprimés, des pages d'un côté et de l'autre, c'était des planches d'une seule face. Et là, je me suis dit, ah oui, en fait, je faisais de la bande dessinée sans trop m'en rendre compte. Et là, avec cet ami, ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, mais alors lui, il est très doué, j'arriverai peut-être pas à faire ce qu'il fait. Mais ça me donne envie et puis mon envie précédait le fait de voir comment il faisait lui. Mais je me disais, c'est pas si inaccessible, c'est comme s'il y avait une porte qui s'ouvrait devant moi. C'est pas forcément à ce moment-là l'idée d'être auteur de bande dessinée, mais c'est venu très très vite derrière. Et je pense que à partir de l'âge de 12 ans, j'ai voulu être auteur de bande dessinée. Et j'ai été très opiniâtre.
Alors, une autre chose qui semble vous caractériser, enfin en tout cas moi que je trouve marquante, c'est que j'ai l'impression que le travail collectif, c'est quelque chose qui est important pour vous.
Oui, mais en fait, je crois que la bande dessinée, c'est le moyen que j'ai trouvé pour avoir un rapport au monde. C'est pour ça que le côté spectre large dont vous parliez, auquel on pourrait ajouter un travail que j'ai fait d'éditeur ou de rédacteur en chef, où j'ai essayé de lier un peu l'intime et le collectif. Et donc, quand on est seul devant sa planche ou dans sa tête, on a, c'est quelque chose qui est nécessaire pour moi. J'ai besoin de ces moments de solitude. Et, mais aussi, nous sommes tous des animaux sociaux. Donc, j'ai essayé d'allier les deux. Et c'est pour ça que je disais que la bande dessinée, c'est une manière à la fois de pouvoir assumer qui je suis profondément et d'avoir du lien avec les autres. Et le seul lien avec les lecteurs, pour moi, n'était pas suffisant. Donc c'est passé par le fait d'être en atelier, aussi de partager un lieu en commun. Et puis, quand j'étais à Paris, on avait monté un atelier qui s'appelait l'Atelier du Coin. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'on partageait quand même beaucoup de visions, beaucoup de valeurs, beaucoup de goûts. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de monter une revue de bande dessinée qui s'appelait Capsule Cosmique. C'était de 2004 à 2006. Et c'était les éditions Milan Presse qui l'avaient soutenu. Et voilà, là c'était effectivement une aventure on ne peut plus collective, parce qu'il y avait l'équipe de rédaction, puis aussi toutes les autrices et tous les auteurs qu'on a accueillis au sein de la revue. Et pour moi, voilà, c'est vraiment très très important de pas s'isoler, même si ma nature est plutôt au départ solitaire.
En parcourant votre bibliographie, moi je me suis autorisé à vous fabriquer une famille.
Ah bon? C'est la mienne qui va être contente.
Et puis j'ai isolé des noms. J'ai isolé des noms: Mathieu Bonhomme, Fabien Vellman, Hervé de Tancrel, parce que je les retrouve beaucoup. On les retrouve, hein, oui, sur les couvertures de bouquins. C'est quoi? Ce sont des confrères, des collègues, des amis?
Et c'est tout ça. C'est tout ça à la fois. Mathieu Bonhomme, je l'ai rencontré en atelier, en fait, au tout départ. Hervé Tancrel, c'était par des amis en commun. Et Fabien Vellman, c'est quand je commençais à faire un peu de bande dessinée et à publier des choses à droite à gauche. Vraiment, au départ, je faisais des animations dans Spirou. Et le rédacteur en chef de l'époque montrait des scénarios de jeunes scénaristes, et parmi ceux-là il y avait Fabien Vellman. Donc on s'est rencontrés par ce biais-là, en fait on oublie tous les gens, toutes les autres personnes qu'on rencontre avec qui on fait pas de route. C'est-à-dire que là je peux refaire l'histoire en disant on s'est rencontrés comme ça et c'est pour ça que, mais en réalité j'ai rencontré plein d'autres gens et il s'est pas passé la même chose avec les autres personnes. Mm-hmm. Là effectivement on fait partie de la même génération, on a en commun, je pense, d'aimer à la fois la bande dessinée classique et puis de pas rester dans une forme de répétition. On essaye, je crois, d'avoir d'accepter l'héritage de ce qui s'est fait avant nous et aussi de chercher un petit peu ailleurs. D'être un peu au milieu de tout ça. Et il se trouve que c'est des personnes avec qui je me suis vraiment lié d'amitié sur la longueur.
C'est l'impression que ça donne vu de l'extérieur.
C'est vrai, c'est vrai.
Je les ai cités. En fait, j'en ai cité trois. On retrouve effectivement d'autres noms, mais il m'a semblé qu'il y avait quelque chose autour de ces personnes-là de particulier. Comment s'est faite la rencontre avec Mathieu Bonhomme, avec qui vous avez travaillé sur la série Messire Guillaume? Ça s'est passé comment, la rencontre? Peut-être même sans parler de la série, simplement la rencontre.
La rencontre, c'était par le biais de Spirou aussi, parce que le rédacteur en chef de l'époque, il s'appelait Thierry Tinlot, c'est quelqu'un qui aimait bien animer la revue. Moi, sur le fond, sur ce qu'il publiait, j'étais pas toujours en phase. Il y avait des choses que j'aimais bien, d'autres beaucoup moins. Mais ça, bon, c'est normal dans une revue. Mais il avait le mérite d'agiter pas mal la revue, de tenter des choses, même parfois avec des choses qui lui plaisaient pas complètement à lui. Donc il y avait une porte ouverte pour les jeunes dessinateurs. C'est lors d'une rencontre à Paris, je crois qu'ils avaient organisé quelque chose à l'Hôtel du Nord d'ailleurs, j'ai rencontré Mathieu à ce moment-là. Puis plus tard, il a cherché un atelier et il savait qu'il y avait une place. À ce moment-là, moi j'étais dans un atelier qui s'appelle l'Atelier des Vosges. Ça faisait qu'un an que j'y étais, je crois. Et c'est à ce moment-là qu'on a sympathisé, en fait, finalement, par le biais de Spirou, il s'est passé pas mal de choses, curieusement.
On se rend compte effectivement de l'importance des revues, oui. Surtout dans la bande dessinée. Il y a eu des revues marquantes, enfin emblématiques, et on se rend compte qu'effectivement, ça a permis, en tout cas, la rencontre d'artistes, surtout aussi parce que ces revues étaient représentées aussi des courants. En fait, des courants différents de la bande dessinée.
Ah oui, bah justement, alors là, les revues, c'est parfait pour sortir les dessinateurs de leur atelier et puis commencer à faire des rencontres à la fois artistiques et amicales. C'est vrai que on en revient à ça. Hein, c'est vraiment lié. J'ai l'impression que on apprend à la fois de façon très pratique, pragmatique, un amant dessiné, c'est aussi quelque chose qui se pratique de façon très concrète. Et puis, pour qu'il y ait des relations qui se nouent, pour aller un petit peu plus loin, eh ben, il faut des occasions. Et les revues, même si on se rencontre pas physiquement, je souhaite quand même que ce soit le cas, mais il y a des familles comme ça qui se des influences et puis parfois quand on dessine ou quand on écrit quelque chose, on peut aussi penser à d'autres personnes à qui on aimerait faire lire ce projet là en fait on est un peu habité, on est hanté par nos histoires, nos personnages, mais je pense aussi par les auteurs qu'on admire ou par nos amis, et tout ça forme une espèce de nuage d'influence artistique et affective.
Dans ces noms que j'ai cités, il y en a un qui, il me semble, doit compter aussi beaucoup pour vous, c'est Fabien Velman, qui est aussi scénariste.
Oui.
Alors, vous avez co-scénarisé ce truc de fou, le dernier Atlas, 600 pages, plus de 600 pages.
Oui, c'est ça, oui, 650, je crois.
Une uchronie. Ça a commencé comment, ce projet du dernier Atlas? Enfin, c'est un projet, oui, un projet de fou.
Oui, alors ça a commencé, c'est la faute de Fabien au départ, qui a il s'amusait régulièrement, je ne sais pas s'il le fait encore, mais à faire des associations d'images, des collages un peu pas liés au hasard, quoi, de vraiment. Et parfois il y a des coïncidences qui sont étonnantes et intéressantes, et je crois que la première image séminale, c'était comme si il y avait un robot géant dans une décharge. En fait, c'est deux images qui n'étaient pas ça au départ, mais ça évoquait ça. Et d'un autre côté, son père a fait la guerre d'Algérie, il était aviateur, et il lui a jamais parlé de ça. C'était quelqu'un qui lui a pas raconté, comme beaucoup de gens qui sont revenus de guerre en général, et la guerre d'Algérie également. Et ça l'a beaucoup travaillé, Fabien, et il voulait en donner, aborder ce sujet-là. Et puis, il a commencé à écrire des choses, puis on a commencé à discuter de faire le scénario ensemble. Après maintes péripéties, finalement, on l'a co-scénarisé. Et on s'est dit que par le biais de l'Uchronie, c'était intéressant de traiter de certains sujets, notamment la guerre d'Algérie, mais la relation de la colonisation aussi, le rapport, comment on habite le monde. Donc la colonisation, ça fait partie de ça, parce qu'il y a un rapport de domination aussi. Et puis, voilà, l'Uchronie permettait de prendre un petit peu de recul, comme même par rapport à... Voilà, des gens qui ont vécu la guerre d'Algérie, qui sont encore là aujourd'hui et qui ont du mal à digérer tout ça encore, et avec qui c'est très difficile de discuter de ces sujets-là. Et puis ça nous permettait d'aborder aussi des sujets plus écologiques, sur, voilà, comme la façon d'habiter le monde, comme je disais tout à l'heure, qui nous préoccupe grandement depuis des années avec Fabien. Et le fait de... Voilà, de quelquefois faut aller vers le réel frontalement, et puis quelquefois quand on a beaucoup de choses à brasser et que c'est un petit peu difficile de les prendre en direct, parce que finalement ça serait contre-productif, parfois bah, la science-fiction, la prospective, l'Uchronie, ça peut nous aider à faire ce petit pas de côté et nous permettre d'aborder des sujets et de les partager sans tous les a priori qui pourrait y avoir au départ.
C'est une uchronie, donc c'est une déclinaison du réel, d'un réel. Ce qui est surprenant, étonnant, dedans il y a un des personnages historiques importants autour de cette période de la guerre d'Algérie, c'est François Mitterrand, et en fait il apparaît pas dans l'Uchronie.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. En fait, on n'a pas, voilà, en fait, on a un peu fait des choix arbitraires, parce qu'une Uchronie, bah, pour le rappeler, c'est un réel parallèle. Et si c'était passé quelque chose d'un peu différent par rapport au présent dans lequel on est, le monde serait un petit peu différent. Après, on a fait des choix. Nous, on a rajouté des choses qui sont encore plus extraordinaires que le fait qu'il n'y ait pas François Mitterrand, mais il y a des robots géants, par exemple.
Oui, je soulignais juste ce point. Effectivement, ce sujet de robots à cette époque-là, de robots géants qui étaient en capacité de construire des villes, enfin, oui. c'est un truc délirant. Alors, ça m'a renvoyé, moi, à la science-fiction américaine des années 50-60 à peu près, où on était capable de produire ça. Vous le produisez en bande dessinée, en plus de manière assez bluffante. Moi, ce qui m'intéressait, c'était cette question du scénario, parce que la série, cette série-là, c'est trois volumes de, oui. Enfin, de 200 pages, plus de 200 pages chacun. C'est donc du temps de travail. Est-ce que le scénario, il était bouclé avant de commencer le travail de dessin, ou est-ce que ça s'est passé un peu comme les séries américaines, les séries télévisuelles qu'on voit, c'est-à-dire que vous étiez plus une brigade de showrunners qui faisait avancer l'histoire au fur et à mesure du travail? Comment ça s'est construit?
Oui. Ben c'est ça, on était une brigade de deux. On avait des points essentiels qu'on voulait traiter, des endroits où on voulait aller, mais entre les deux, entre ces deux endroits-là, le trajet pour y arriver, c'était pas mal de choses improvisées. Mais dans le fond, il n'y a pas d'improvisation, puisque... dans le fond, on sait à peu près ce qu'on savait à ce moment-là, ce qu'on voulait aborder, mais on s'est laissé de la liberté. On travaille en fait régulièrement avec Fabien depuis très longtemps sur des sujets différents, et on a pris l'habitude de se voir, de discuter pendant des heures, et puis de se raconter l'histoire, d'aller dans certaines directions, des pistes. On va jusqu'au bout de la piste, puis si on sent qu'elle n'aboutit pas, ou qu'elle ne résonne pas en nous de manière crédible, et d'ailleurs on le voit dans les yeux de l'autre ou dans sa manière de se comporter, on va pas jusqu'au bout, on la valide pas. En fait, on se connaît suffisamment bien pour ça. Alors si Fabien était à l'origine du projet et je lui laissais le final cut, mais en réalité on n'a rien fait qui déplaisait à l'autre. On s'est accordé. Donc on savait ce qu'on voulait raconter dans le fond, et il fallait aussi qu'on se surprenne nous-mêmes. Donc l'idée, c'était pas juste de développer des thématiques, mais aussi de raconter les choses à travers, enfin, à taille humaine. En fait, on voulait aussi que au-delà des grandes thématiques, ce soit incarné par des personnes. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de personnages quand même dont il fallait connaître la personnalité, le passé, la psychologie, voilà. Et avec, on s'est très bien entendu justement professionnellement aussi avec Hervé Tancrel, parce que il prolongeait ça. Lui, il avait envie de savoir comment son personnage tenait sa tasse de café, ce qu'il fumait. Enfin, on était loin, quoi, chacun dans la personnalité de chaque protagoniste.
Ça se passe comment? Il y a un scénario qui est écrit, il y a un dessinateur qui se met au travail. C'est une équipe, c'est-à-dire que ça vit Le projet vit comme ça, en interrelation, en interaction, ou alors c'est, par exemple, pour le dessinateur, un travail plus solitaire.
Il y a différentes étapes. C'est quand même un travail solitaire pour lui, mais je voudrais parler de deux autres personnes qui ont travaillé sur le dernier Atlas. Il y a Fred Blanchard qui a fait les designs, parce que comme il est dans une uchronie, qui avait aussi des choses à dessiner, à designer, même de l'architecture, des logos, il y avait énormément de choses à faire, et ça c'est Fred Blanchard qui a donné tout son talent pour rendre crédible tout ça, et puis il y a Laurence Croix qui a fait les couleurs. Donc chacun était dans son rôle, mais il y a des choses assez poreuses. C'est-à-dire que on se voyait avec Fabien pour discuter du scénario, donc c'était comme une sorte de co-écriture à l'oral, on va dire. Ensuite, il travaillait sur un épisode, il me le renvoyait, on rééchangeait, et peut-être des versions, deux, trois versions de chaque épisode, quatre quand vraiment il y avait des soucis. On l'envoyait et à Hervé et à Fred. Hervé faisait un premier découpage et il discutait avec Fred du découpage. Fred qui a plus l'habitude de récits enlevés, d'aventures, et Hervé qui venait plus d'une bande dessinée plus classique, quoique ça se discute, mais on va le dire comme ça. Et une fois qu'ils avaient un storyboard qui leur convenait, ils nous le renvoyaient et ils pouvaient avoir une autre passe de notre côté. Mais plus ça allait et plus c'était rapide, en fait. Mmh. Et moins il y avait de choses à dire. Et il s'est passé quelques fois, je me souviens d'une fois où on n'était pas inspiré, il y a eu un moment de creux, il y a un épisode, ça allait pas, on l'a refait. Moi-même, je disais à Fabien qu'il y a des choses que je sentais pas complètement bien, mais on n'avait pas réussi à deux à résoudre ça, et ça a pas loupé. Ils nous l'ont dit, mais non, mais là ça va pas. Et c'est arrivé vraiment une fois où c'est et on s'est remis d'aplomb derrière. Ils nous ont réveillés sur à ce moment-là. Quoi.
C'est une série qui est impressionnante. Enfin, moi j'ai trouvé impressionnante. Je lis de la BD, mais pas tout le temps. Là, je me suis fait prendre vraiment par la série, c'est-à-dire que j'attendais les volumes suivants en me demandant comment cette question de Oumu, enfin de cet extraterrestre qui apparaît dans la BD, comment elle allait être traitée, parce que c'est délicat, puisque ça n'existe pas, parce que le visualiser c'est compliqué, enfin visualiser quelque chose qui n'est pas sur la Terre, enfin qui n'appartient pas à nos concepts, et je trouvais la proposition, en fait, qui est faite graphiquement, la proposition, parce que en termes de roman, ça fonctionne. Les extraterrestres, on en a l'habitude. Faut arriver à travailler à le faire graphiquement. Non seulement à le faire graphiquement, mais en termes de scénario, à expliquer pourquoi c'était comme ça, pourquoi il était là, à cet endroit-là. Oui. Enfin, bref. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Enfin, j'y ai cru. Malgré mes plus de 60 ans, en fait, j'y ai cru, ça m'a pas dérangé. Je me suis dit, bah oui, c'est possible, en fait.
Ah oui, ah bah tant mieux. On a vraiment tout fait pour qu'il y ait en amont, déjà au niveau du scénario, quelque chose qui nous paraisse. Comment dire ? Alors, crédible, c'est un bien grand mot, mais que ça puisse passer, qu'il y ait une cohérence qui puisse être admise par le lecteur, et déjà commencer par nous. On a voulu être au moins sur une forme de cohérence, et une fois qu'on, comme je le disais tout à l'heure pour le scénario, à un moment donné, on sent que, un peu comme si on accordait un piano, voilà, à un moment donné, on sent que, ah ben là, ça sonne juste, on va rester là-dessus. Et on fait appel à autre chose qu'un raisonnement purement intellectuel ou rationnel. On le fait, évidemment, parce que c'est obligé. Mais on fait aussi appel à notre intuition et on essaye de développer cette forme de cohérence et puis de vitalité scénaristique. Et une fois qu'on a ça, bah, il fallait pouvoir l'incarner. Et là, c'est Fred Blanchard qui a réussi, avec les indications qu'on lui avait données, à incarner ce qu'on avait en tête, mais qu'on n'était pas capable de dessiner nous-mêmes. Et là c'est vraiment et alors Fred il s'amuse avec pas mal de choses, il va observer, il va regarder, je crois qu'il s'est amusé aussi à regarder avec un os de sèche, avec il va s'inspirer de choses qui sont dans le réel pour inventer quelque chose qui nous paraît pas réel justement.
Non mais je me suis fait prendre, et j'ai même été ému, en tout cas interrogé par le sort qu'on destinait à cet extraterrestre, qui est là malencontreusement, on va dire. Hein, il est,
oui, alors je vais pas raconter pour ceux qui n'ont pas lu, mais non, c'est vrai qu'il y a...
L'humain retombe un peu dans sa tradition, c'est-à-dire que l'autre, l'étranger, le différent, ça lui pose problème. Enfin, ça pose problème. En tout cas, moi, j'ai été ému par le sort... Oui, qui est réservé finalement à cet être. Et voilà, c'était quelque chose de... Oui, c'est ça, ému, en fait, tout bonnement.
Ah bah c'est bien de savoir ça.
mais c'est peut-être mon côté humaniste qui est mal connecté. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai bien... Alors, vraiment, cette série a été, que j'ai trouvé vraiment passionnante, qui ne pose pas forcément des questions de... philosophique par rapport à la bande dessinée, qui se contente de raconter une histoire, qui raconte une histoire. Et moi, en tant que lecteur, j'ai pris cette histoire, j'ai accepté l'histoire, je l'ai prise. Vous écoutez Entre les Pages, vous écoutez Radio G, fréquence 101.5, et je rencontre aujourd'hui Gwen de Bonneval, auteur de bande dessinée et scénariste. Et nous reprenons notre conversation. Il y a un autre travail sur lequel je me suis posé des questions. C'est le travail que vous avez fait sur Gilgamesh.
Oui.
Là, vous êtes au scénario.
Oui.
Aussi. Vous travaillez avec Franz Duchazot.
Oui.
Travailler sur la légende de Gilgamesh, ça vient comment ? À qui ça, dans la tête de qui ça peut bien passer de se dire, tiens, bon, on va faire une bande dessinée sur Gilgamesh.
Oh, je pense que ça peut passer dans pas mal de têtes. Alors, moi, ça, c'est venu très tôt. Hein. Je pense que c'est au moment. Tout à l'heure, on évoquait le moment où j'ai commencé à faire de la bande dessinée, en étant conscient que j'en faisais. Et ben, ça date de ce moment-là. J'allais piquer des livres dans les bibliothèques de mon père, et puis je crois que c'est né d'un livre qui s'appelait Les Avatars du Christianisme. Ça m'intéressait, voilà. Donc c'est un livre assez ésotérique, hein, assez mystique. Et puis cette histoire de Gilgamesh m'avait assez interpellé. Et je crois que j'avais commencé à en faire une première version. J'avais pas tout compris à ce moment-là, hein, j'avais 12 ans. C'était pas du tout en Mésopotamie. J'avais fait quelque chose d'un peu plus médiéval, etc. C'était assez rigolo. Et puis quand des années plus tard j'ai rencontré Franz et qui s'intéressait aux civilisations, aux civilisations anciennes, etc. Ça m'est revenu. Parce que en fait, pendant, j'avais ça au fond de moi toujours. Je me suis dit, j'ai envie de raconter cette histoire un jour. Et puis à ce moment-là, je m'y suis réintéressé et c'était peut-être. Et en fait, ça a collé avec. Voilà, avec des envies du moment aussi de Gilgamesh, c'est à la fois. C'est l'origine de beaucoup de choses en fait, et c'est assez méconnu malheureusement, mais tout ça a influencé tout le bassin méditerranéen. Donc on connaît Gilgamesh sans le connaître, on le connaît à travers l'influence qu'il a eue sur les civilisations grecques et romaines, et la Mésopotamie a laissé moins de traces aussi, donc c'est difficile de s'y intéresser. Mais une fois qu'on met
le pied dedans, une fois qu'on découvre la cité du Rook,
c'est génial,
et qu'on commence à s'y intéresser un peu.
Puis alors là, oui, c'est ça. Au niveau symbolique, il y a des trucs incroyables. Et puis, alors, nous, on avait une petite anecdote qui était assez intéressante aussi à ce moment-là. C'est qu'on a été se renseigner, rencontrer aussi des gens, des spécialistes de la Mésopotamie, et notamment un auteur qui s'appelait Jean-Daniel Forest, qui a écrit sur Gilgamesh et sa postérité, et qui a écrit qu'elle est au-delà de prérogatives scientifiques. Il se mouillait un petit peu sur justement voilà la symbolique et énormément de choses. Il a extrapolé pas mal de choses. Ce qui était intéressant, je sais, il y a plein de scientifiques par ailleurs qui étaient mitigés sur sa vision. Mais voilà, c'était en tout cas extrêmement stimulant. Et il était assez gentil pour nous recevoir à un moment donné. Et il était juste à côté de mon atelier, donc premier hasard. Et puis à un moment donné, il nous dit, mais moi, mon frère faisait la bande dessinée. Et en fait, c'est le frère du dessinateur scénariste Forrest, et donc que j'adore en fait. Et j'avais pas du tout fait le lien, j'imaginais pas que c'était ça. Donc là, à ce moment-là, on se dit bon, en fait, je suis à la bonne place, je suis sur la bonne voie, je devais rencontrer cette personne et raconter cette histoire-là.
Franck Dichazot, il a fait un choix graphique qui est très radical.
Oui.
Parce que se reprojeter 5000 ans avant, enfin, avec peu de références, la Mésopotamie, on a quelques sculptures, enfin, on a quelques idées. Lui, il a fait un choix radical. Et je me demandais comment vous, qui êtes dessinateur, qui êtes là au scénario, qui travaillez avec un dessinateur, comment vous voyez ce travail se faire? Quel regard vous avez? Quel sentiment il y a de voir une histoire, l'histoire que vous avez imaginée, naître, sortir, mais pas de vos pinceaux, mais de ceux d'un autre?
Oui, alors là, il y a deux sujets, parce que la dernière partie de votre question, elle est plus générale, parce que selon les projets, ça ne va pas me faire le même effet. Pour Gilgamesh, c'est un peu différent, parce que, en fait, c'est une histoire tellement ancienne qu'on s'est estimé des passeurs. Et toute la difficulté a été justement parfois de combler les manques qu'il y avait entre différentes tablettes. C'est pour ça qu'on a dû enquêter. Et puis parfois, bah, on a fait des choix et qui ne sont peut-être pas les bons. Je ne sais pas. En tout cas, graphiquement, c'est quelque chose que je n'aurais pas su faire. Comment dire, pour moi, il y avait une cohérence avec le côté passeur dont je parlais, d'essayer de retrouver une forme d'écho ou de vibration de temps ancien, ce que j'essayais de préserver le plus possible dans le scénario, dans l'adaptation. C'est une forme d'adaptation et de scénario en même temps. Pour moi, la façon dont ça résonnait avec le dessin de Franz Duchazot était assez harmonieuse. Enfin, moi, ça me convenait, en tout cas.
Je parle de choix radical. C'est pas forcément plaisant. Pour moi, lecteur,
ça brosse pas dans le sens du poil.
Voilà, ça va. C'est un peu rude. Voilà, ces grands géants qui se baladent, c'est rude. Mais en tout cas, moi, je l'avais jamais lu. Je connais l'histoire de Gilgamesh, mais je l'avais jamais lu. En fait, ça m'a permis de la relire complètement. Enfin, de remettre les gens à leur place. Je connaissais Enkidu, tout ça. Je savais, mais sans plus, j'avais oublié que le déluge venait de là. Je savais qu'il venait de là, mais j'avais oublié qu'il venait de là, et puis en fait, il vient de là, quoi.
Et oui, c'est pour ça que l'influence mésopotamienne est énorme. On est pétri de ça et on s'en rend pas compte.
Autre travail, alors celui-là, il est étonnant. Des fois, les gens ont de la chance, puisque dans votre famille, vous avez ce personnage, Bonneval Pacha.
Oui.
Guerrier, marin, enfin bon, bref, il a une vie pour le moins agitée. Oui. Une vie qui était destinée à devenir une bande dessinée, finalement.
Oui, alors pour moi, c'était. Alors pour resituer, ben c'est un personnage qui était vraiment connu à son époque, qui était appelé à une destinée assez historique, et finalement il est plus une destinée romanesque qu'historique. Moi, quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée, comme j'ai une famille qui est un peu ancienne, il y avait le poids de, j'avais pas forcément, j'étais pas toujours en accord avec les valeurs familiales non plus, traditionnelles, etc., même si j'aime beaucoup les gens de ma famille, hein, mais simplement voilà, humainement et politiquement et tout ça, on n'était pas toujours d'accord, et j'avais besoin de tracer ma propre voie. Donc même au tout début, les premiers travaux que j'ai faits, je signais que Gwen et pas Gwen de Bonneval, comme si le nom de famille m'handicapait un peu ou je trouvais un peu lourd à porter. Et puis au bout de quelques années d'existence en tant qu'auteur de bande dessinée, j'ai repensé à ce personnage-là et je me suis dit, non mais de là où je suis, je peux pas ne pas en parler. En fait,
ça aurait été dommage.
Ça aurait été dommage.
Sur plus d'un plan, ça aurait été dommage. Parce que d'abord, il y a quelque chose qui est extraordinaire dans cette épopée. Enfin, c'est une épopée, quoi. Enfin,
oui.
Il passe par tellement d'étapes dans sa vie. Et puis, on n'y croit presque pas. On pense que ce personnage, c'est pas possible qu'il ait existé, oui. Finalement.
Et non seulement il a existé, mais à son époque, il y a des gens qui ont écrit en se faisant passer pour lui et qui ont raconté d'autres histoires rocambolesques. Et lui-même disait que c'était n'importe quoi. Et alors la difficulté, c'est justement de trier, parce que lui-même donnait plusieurs versions des choses. Donc, mais parfois, ce qui lui arrivait était plus intéressant ou plus extraordinaire que certaines versions qu'il avait pu donner, qu'il arrangeait de dire à ce moment-là. Donc, moi, je suis très intéressé par les récits qu'on fait. L'être humain, il baigne dans le récit. On est tout le temps, on est dans du réel, mais pour accepter le réel ou pour l'infléchir, soit l'un, soit l'autre, hein, ça se discute, on a besoin de récits par-dessus. Le personnage de Bonneval Pacha, il m'intéressait pour ça, comme il y a une autre série, pour le coup, que j'ai adaptée, qui s'appelle Les Racontars Arctiques de Jørn Rieg, avec Hervé Tancrel au dessin. Bah, Les Racontars, c'est une histoire vraie qui pourrait passer pour un mensonge, à moins que ce ne soit l'inverse, nous dit Jørn Rieg. Voilà. Et bien, Bonneval Pacha, c'est un peu ça aussi. Et parfois, dans ma famille, mon père, ma mère, etc., il y avait une manière de raconter les choses. Tout petit, je disais, mais non, mais ce qu'ils disent, c'est pas vrai. Ça me perturbait vraiment profondément cette ligne de comment on raconte le monde, et et c'est aussi le rôle du raconteur, hein, c'est de parfois dire des choses très justes mais qui sont pas forcément telles qu'elles se sont passées de façon rigoureuse. On peut mentir vrai, c'est ça le rôle du romancier, de l'écrivain, de voilà.
Dans Les Racontars, on le voit bien.
Et dans Les Racontars, il y a des moments où ils disent, mais ça, en fait, je vais pas le raconter parce que ça passera pas, c'est arrivé mais on n'y croira pas.
Oui.
Alors ils préfèrent un autre mensonge qui paraîtra plus crédible que la vérité. Et tout ça, cette frontière entre le réel et la façon dont on l'a perçu, et ensuite le plaisir qu'on a à raconter les choses aussi, et on le voit bien dans Les Racontars, c'est aussi il y a quelque chose de tacite entre celui qui raconte et celui qui reçoit, qui est, si je vais par là, est-ce qu'on est d'accord, est-ce que tu valides, est-ce que tu me crois, puis on continue, voilà. Et c'est un peu le rapport qu'il y a entre un raconteur d'histoire, un écrivain et son public, en fait.
Et comment Jørn Rieg a pris la proposition d'adaptation, parce que c'est pas rien.
Oui,
c'est des petites séquences, en fait, des petites
des petites nouvelles.
Et puis tout d'un coup, voir quelqu'un débouler, lui dire, ben on peut en faire quelque chose d'autre. Enfin, ça peut être autrement. Comment un auteur
peur,
pense,
hein, on pourrait vous cacher, parce que à ce moment-là, je commençais à développer en tant qu'éditeur, du coup, la bande dessinée chez Sarbacane, après l'aventure Capsule Cosmique, la revue dont je parlais tout à l'heure. De l'autre côté, avec Hervé Tancrel, on était amis, on avait envie de travailler ensemble. J'avais vu que chez Sarbacane, ils avaient adapté, ils avaient travaillé avec Jørn Rieg pour... Alors c'était plutôt de l'illustration, c'était pas de la bande dessinée, ils en faisaient pas à ce moment-là. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais il y a Sarbacane d'un côté, il y a mon amour pour les livres de Jørn Rieg et pour les raconteurs, et puis il y a Hervé, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui pourrait se passer là, entre les trois. Hervé connaissait pas, je lui ai fait découvrir, et puis petit à petit, il s'est laissé complètement prendre au jeu. Et ce qui est très bien, ce qui, là où il est très fort, Hervé, on en parlait tout à l'heure pour le dernier Atlas, c'est la caractérisation des personnages. Il trouve des, des trognes, des, pour les raconteurs, ah oui, c'était parfait.
Pour les raconteurs, il a fait fort. Hein. Là, les personnages, ils sont présents, là, ils sont là.
C'était le bon dessinateur pour ça, c'était le bon casting. Et puis, alors on a fait un essai et Yandri, il est passé. Il venait régulièrement à Paris, enfin régulièrement, peut-être une ou deux fois par an. Et après une lecture des raconteurs, je crois que c'était par Dominique Pinon, à la fin.
Ah oui, quand même.
Je vais le voir, un peu ému, et puis avec les quelques copies de pages qu'avait faites Hervé, et puis. Puis en ayant peur de la sanction, parce qu'il savait qu'il y avait ce projet-là, mais il avait rien vu. Et puis, bah, c'est un petit bonhomme avec les yeux clairs, perçants, plein, voilà. Et moi, j'avais un peu peur de la sanction. Puis il regarde les pages, bon, il lit pas le français, et puis à un moment donné, il y a ses yeux qui s'illuminent. Et puis, il fait Valfred, il reconnaît le personnage et tout ça. Et puis. En fait, à ce moment-là, j'ai senti que, avec ses yeux pétillants, c'était le début de la validation du projet qu'on allait pouvoir développer derrière. Et là, j'ai eu un grand soulagement. et derrière, on lui a montré des choses qui ont beaucoup plu. Et après, on ne sait pas si, quand il dit que les personnages ressemblent exactement, je pense que c'est une forme de racontard aussi. C'est-à-dire que on a peut-être menti vrai.
Oui, là, encore une fois. Vous allez être présent au Festival Les Affluents la semaine prochaine, alors pour un apéro lecture, c'est ça, je crois.
Pas lecture, mais un apéro. On va partager nos goûts, en fait.
Ah, c'est partager les goûts.
Oui, alors je sais plus comment ils l'ont formulé exactement, mais c'est un apéro. On va parler. C'est Henri Landré de JTFM qui va animer ça. On va à la fois parler de nos parcours avec Fabien Vellman. Ouais. On sera tous les deux, et puis. Henri nous a proposé de jouer le jeu à travers les sens aussi, de proposer des choses avec la thématique du fleuve, des affluents, voilà. Donc ça va être par la porte d'entrée des goûts qu'on va avoir cette discussion là et normalement on partage des choses avec le public.
Ah oui, voilà. Ah oui, puisque c'est un apéro, donc il y a.
Ben voilà, ça voilà, va être, on va pas garder ça pour nous.
C'est au Festival des Affluents qui a lieu du 24 au 26 juin à Ancenis. Voilà, Ancenis-Saint-Géréon. Et vous y serez, donc il y a un beau programme, il y a un beau programme qu'on peut voir sur Internet, qu'on peut aller consulter sur Internet, un programme très riche. Il y a beaucoup de belles choses à l'intérieur. Comme j'ai une passion pour Jack London, le travail de Chabouté sur la nouvelle Construire un feu,
oui,
qui est extraordinaire, nouvelle, une des plus belles nouvelles que je connaisse. Oui, ça m'interpelle beaucoup et ça m'intéresse beaucoup. Quand on a pris rendez-vous, vous m'aviez dit « Oh là là, c'est vraiment compliqué, j'ai pas beaucoup de temps, je suis très pris, j'ai beaucoup de travail. » Vous travaillez sur quoi en ce moment?
Ah oui, en fait c'est un projet qui m'occupe et qui me préoccupe, parce que c'est une, quand je parlais de la bande dessinée comme manière d'être au monde tout à l'heure, bah là ça se rejoint d'autant plus que je vais faire quelque chose d'autobiographique. Il y a mes préoccupations depuis longtemps sur l'état du monde, et puis ce dont on parlait aussi tout à l'heure, bah, il y a les parcours de vie et les récits de vie qu'on met sur les parcours de vie. Et on est plus ça allait, plus j'avais l'impression que ça pouvait se rejoindre, tout ça. Et alors là, je suis sur un projet qui va être un dialogue entre le parcours individuel et puis le parcours humain, en fait, de comment on arrivait à habiter le monde de cette manière-là. Et comment nous on a pu accepter ce récit-là ou cette manière d'être au monde, voilà. Donc c'est très très vaste. Ça me fait lire beaucoup de choses, mais finalement je lisais déjà beaucoup de choses avant, et c'est l'aboutissement aussi de ça qui me donne envie d'aller dans cette direction et de développer ce projet-là. Et c'est comme si à un moment donné le projet que je devais faire, c'était celui-ci. Mais ça prend un temps qui est incomparable, parce que c'est pas qu'une somme de travail. En fait, c'est, il y a un moment donné, il faut que certaines choses décantent, soient digérées pour avancer. Et tant que ça l'est pas, je ne peux pas avancer. Alors du coup, j'avance sur autre chose. J'essaie qu'il n'y ait pas de temps mort. Et parfois, il en faudrait, parce que c'est comme pour une terre, il faut qu'elle soit en jachère aussi de temps en temps.
Que ça repose un peu.
Oui, voilà.
Ça décante et que ça repose un peu.
Exactement, exactement. Mm-hmm. Donc là, c'est une histoire qui se passe. En fait, c'est deux volumes de environ 200 pages qui seront accueillis chez Dupuis aussi. Normalement, c'est chez la collection Air Libre.
C'est le bon endroit pour ce genre d'histoire là.
Ben j'espère. On verra comment ça se passe, mais c'est vrai que moi j'étais ravi d'être dans cette collection là que j'ai vu arriver il y a très longtemps avec plein d'auteurs que j'admirais. Donc là, ça me fait plaisir d'être là. Particulièrement pour ce projet. Et même si je me suis beaucoup investi de façon très personnelle dans tous les projets que j'ai faits, bah là, ça concerne encore plus fondamentalement. Donc, je suis occupé et préoccupé aussi. Je suis hanté par ça.
Et là, vous êtes au dessin ?
Et au dessin et au scénario, je peux laisser à personne, à personne d'autre la possibilité d'entrer dans ce projet. C'est pas possible, à part à l'éditeur. Mais sinon, pour ce projet-là, c'est pas possible. Et je sens bien qu'il y a un avant et un après ce projet-là. J'ai d'autres idées, d'autres envies, mais pour l'instant, elles sont ralenties parce que ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'espace en moi.
Mais Gwen de Bonneval, je vous remercie de m'avoir reçu.
Merci beaucoup.
J'ai été vraiment ravi de pouvoir échanger avec vous. Je vous souhaite ce qui peut le mieux pour cette future aventure littéraire. Et puis je vous dis peut-être à bientôt. Au revoir.
Au revoir, à très bientôt.
Juste là, tu ne veux chi se non solo tu, chi se non solo, chi se non solo tu, chi se non solo, chi se non solo tu, chi se non solo.
Vous venez d'écouter Je reste là de Titi Zaro avec la belle voix de Giorgio Conte. Vous êtes bien sur Radio G, que vous pouvez aussi écouter dans le monde entier sur le www.radio-g.fr. Et c'est maintenant l'heure de la chronique de Julien. Avant dernière étape de son tour du monde, aujourd'hui, il nous emmène en Turquie.
Ah ah ah, tour du monde.
What is your nationality?
I'm a drunkard.
That makes Rick a citizen of the world.
Chers auditeurs d'Entre les Pages, mon très cher Luc, aujourd'hui, je vous propose de nous arrêter à la lettre T de mon tour d'immonde. J'aurais pu, dans ces conditions, vous embarquer pour la Thaïlande de John Burdett et de son personnage attachant qu'est l'inspecteur thaï Sonchai Jitplechip. Celui-ci apparaît dans Bangkok 8 et ses 5 suites. Mais ces histoires où la corruption et le vice planent sur la cité thaïlandaise ont d'une part été écrites par un auteur anglais, et d'autre part, Bangkok est pour moi la dernière destination graveleuse de Manuel Vázquez Montalbán. Donc, je préfère éviter. Dans ces conditions, direction la Turquie, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Même si on ne connaît que très peu la littérature policière turque, elle est bien présente, presque foisonnante. Les éditions Métellier avaient fait une jolie incursion avec La malédiction de Constantin, de Mineje Kirekenat, un hommage brillant à la ville d'Istanbul qui subissait alors un tremblement de terre. Le tremblement de terre, il est aussi d'une autre façon abordé par Mehmet Murat Sommer chez Actes Sud, car son héros est un homosexuel qui court les boîtes de nuit. Dans la série des enquêteurs atypiques, on pourrait rajouter le chat enquêteur, mais pas du rabbin, du romancier Akif Pirinci. Notons au passage que la figure du chat est très utilisée dans les littératures policières, depuis les romans de Lillian Jackson Brown à un certain Black Sad. Presque autant, à vrai dire, que l'enfant enquêteur. Et c'est bien sur cette figure que je m'arrête aujourd'hui avec le romancier Alper Caniguz et son double presque homonyme, l'enfant détective de 5 ans, Alper Camus. Alors Camus, K-A-M-U, pas C-A-M-U-S, même si les deux partagent, et ce n'est pas hasard, la même philosophie de l'absurde. Alper Caniguz est un auteur qui manie à la perfection l'ironie, la causticité et l'absurde. Et ses romans s'en ressentent bien évidemment. En France, il a été publié chez Mirobol durant les années 2015-2017. Le personnage d'Alper Camus est issu d'une longue lignée de personnages absurdes de l'imaginaire, comme le fameux Nasreddin Hoxha, dont les péripéties foisonnent et que je vous recommande franchement. Ici, il s'agit d'un enfant de 5 ans, je l'ai déjà dit. Surdoué, ça je ne l'avais pas dit. Il a été retiré de l'école maternelle par ses parents et il contemple la société de façon faussement naïve. Dans l'assassinat d'Ikabi Bey, Alper Camus, qui lit de la philosophie et de grands auteurs romanesques sans un dictionnaire à côté de lui, qui est déjà obnubilé par le sexe et sa sexualité, doit faire face à un crime horrible. Son voisin a été retrouvé égorgé. Et ce voisin n'était autre qu'un commissaire de police à la retraite qui n'était pas très aimé du quartier. Seulement voilà, un coupable est tout trouvé en la personne d'un simplet que le garçon apprécie. Alors, plutôt que de le voir croupir dans une prison, le garçon va enquêter. Si l'enquêteur est cynique, l'enquête est légère. Et surtout, Alper Camus se retrouve limité par ses propres prouesses physiques. De plus, il doit faire face à un procureur coriace et un père qui lutte contre sa hiérarchie pour ne pas se retrouver à travailler en province. La satire est bien entendu là pour traiter de la société et de sa corruption, dont le commissaire assassiné est une figure emblématique. Le héros de 5 ans, lui, il réapparaît ensuite dans Une fleur en enfer, avec deux intrigues mystérieuses liées à la famille. Sa propre famille, avec un oncle mort de mort naturelle, mais avec des documents familiaux qui ressurgissent, et surtout, avec la déclaration d'un ami, ami qui a 12 ans, et qui s'accuse d'avoir tué son propre frère handicapé par strangulation. Un thème sérieux pour une intrigue qui vire à la comédie, mais traité avec intelligence. Ce sera, il faut bien dire, malheureusement, la dernière apparition absurde de ce philosophe en herbe, enquêteur amateur et amateur de la société. Un peu après, Albert Canigus proposera un roman d'espionnage hallucinant et halluciné, L'Agence secrète. Alors là, l'intrigue, elle n'est pas racontable. Âme curieuse, surtout, ne pas s'abstenir. Quant aux deux aventures d'Albert Camus, elles sont aujourd'hui disponibles au livre de poche. Mais vous pouvez encore trouver les trois romans d'Albert Canigus dans leur édition très classe chez Mirobol. Bonne lecture.
Encore une fois, un grand merci à toi, Julien. Le terme de ton tour du monde approche, les vacances seront bien méritées. Dans les événements à venir du 23 au 26 juin prochain, autant dire ce week-end, rendez-vous au festival Les Affluents à Ingrandes. En plus de Gwen de Bonneval, que vous pourrez rencontrer le samedi à 18h30 pour un apéro littéraire avec François Vellman, vous pourrez aussi écouter Pierre Bordage, Sorge Chalandon ou Rémi Chechetto. Toutes les informations sur le site www.lesaffluents.fr. Au cours de l'émission, vous avez entendu Titi Zaro qui a interprété « Je reste là », cet extrait de leur album « L'hymne des Louves » dont j'ai dit tout le bien que j'en pensais. Vous retrouverez toutes les informations et tous les liens relatifs à cette émission sur la page de « Entre les pages », sur le site de Radio G, à la date de l'émission. Le prochain rendez-vous, ce sera le mercredi 6 juillet à 17h. Et puis « Entre les pages » revêt ses habits d'été pour les mois de juillet et août. Une thématique, les maisons d'écrivains. L'émission va donc s'installer au château de la Turmelière pour une rencontre autour de Joachim du Bellay, au château du Paty pour une rencontre autour d'Hervé Bazin, à la maison Julien Gracq, et à Mazé pour une rencontre autour du poète Émile Choulin. Dans quelques instants, ce sera le journal de 18h de RFI et puis le magazine Topette, animé par Pierre Benoît. Je vous souhaite une excellente soirée. Et maintenant...
In 500 meters, go straight, and then go straight.
Générique.